Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Ouh là là.
On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon?
Voilà, messieurs.
Oui, mais comment on boit ça?
Du sec.
Allez.
Moi c'est Mika, bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles.
Voilà, nous voici de retour, la partie dégustation, c'est toujours une partie qui, au début, on avait trois vins, et puis pour certains, comme chez Franck Bucher, ça a fini à l'infini, chez Linella, où on avait une quinzaine de vins, heureusement que le train existe, c'était beau, j'ai vu tout le monde en double quand je suis reparti de lui, mais c'est ça qui est génial, et c'est pour ça aussi que j'ai choisi l'Alsace, c'est parce que ils ont plus de cuvées, souvent ils veulent en enlever une, mais en fait non, ils en rajoutent parfois même une, alors qu'ils les ont dit de l'année d'avant qu'ils veulent en enlever une. Mais
c'est deux.
Mais c'est comme ça. Toi, tu t'occupes des vinifs de tout maintenant, tradition ou ton père est encore présent, ouais. Très présent.
Alors cette année, il était moins présent, ouais. Par la force des choses, mais il était moins présent. Petits problèmes de santé, ouais.
C'est important.
Et donc là, j'étais un peu par la force des choses, très proche, très proche. Donc là cette année, j'ai tout suivi et ouais. c'était surtout l'année de tous les défis. Donc voilà, là, on va commencer avec un Riesling.
Yes.
Donc le Riesling qui s'appelait Vieille Vigne, mais que maintenant j'appelle comme tous les cuvées classiques en nature, le cuvée Rutschler.
Rutschler, si je laisse faire un nom.
Ça veut dire
quoi en Rutschler?
Rutschler, c'est un petit truc qui glisse. Ouais, donc
c'est comme un toboggan.
C'est un godet.
Un godet,
quoi. Donc c'est ce qu'ils utilisaient. Il y a un article sur le site internet du restaurant chez Yvonne qui explique le Rutschler. Donc c'est vraiment, de toute façon à l'époque personne n'utilisait des verres à pied, hein. C'était trop cher, ça cassait trop, enfin voilà, si on n'était pas des aristocrates, tout le monde buvait dans des godets, voilà. Donc j'ai voulu rendre hommage à ça pour le vin de soif, bien fait, hein, mais bah, des choses qui glissent bien, quoi.
Les choses gouléantes, comme on dit aujourd'hui.
Ouais.
Bon, Skilt.
Skilt.
Tu parles alsacien, du coup?
Oh, pésolin, hein.
Pour un sudiste qui
okay. Good.
On aime bien. Ouais, il y a une belle tension, il y a une attaque qui est franche, directe, hein. On est quoi sur un terroir un peu plus calcaire, hein, certainement un peu grésoeux, non?
On a toujours. Là, on est sur le secteur de Bar, donc c'est vraiment beaucoup de calcaire,
ouais.
Avec différents degrés,
ouais.
D'argile.
Oui. Ah, il y a un peu d'argile. Ouais.
Mais là, ouais, c'est majoritairement. De toute façon, chez nous, on a beaucoup, beaucoup de terroirs calcaires.
Ouais. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est très. En fait, c'est toujours ce qui me plaît dans les vins. C'est cette finesse, mais aussi cette fraîcheur et cette gourmandise. Quoi. Il y a du fruit. Et ça m'a. En fait, depuis que je goûte le nature, j'ai toujours surpris parfois par. Tout le monde a le fruit sur les vins rouges, tu vois. On a le côté, quand tu goûtes une Syrah, on sent le fruit, t'as l'impression que tu croques. Mais je trouve que plus on avance sur les natures et plus vous arrivez à maîtriser, à faire des vins de haute qualité en nature, on a l'impression qu'on croque. Là, j'ai l'impression que je croque dans le raisin du Riesling, tu vois, c'est sans, le sucre en moins, évidemment, je précise quand même, mais qui est vraiment sec. Mais,
parce que l'alcool, oui, mais le sucre, non. Hein. Ça, bah, ça a pas écoute, de ça chez nous.
Je suis pas persuadé que le sucre soit moins dangereux que l'alcool ou vice versa. Ah, bref, ceci est un autre débat.
Point de vue.
C'est ça. Mais non, voilà, je trouve que ça, c'est pour quelqu'un qui ne connaît pas la nature, je pense que tu mets tout le monde d'accord, quoi. C'est accessible.
Qui ne connaît pas, oui. Qui est contre, non.
Ah oui, qui est contre, ça c'est encore autre chose. Bon,
mais non, mais il y a de plus en plus de convertis. Mm. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans le fait de faire deux gammes. C'est qu'en fait, on attire des gens peut-être qui n'auraient jamais goûté de nature. Mm. Et hop, moi je leur sers du nature parce que j'essaie de, c'est pas que je leur donne contre leur gré, mais j'essaie toujours... d'au moins leur faire goûter. Et honnêtement, j'ai été surpris plus d'une fois sur des gens que je pensais être réfractaires, notamment des gens qui buvaient beaucoup de vin sucré ou liquoreux et qui en fait sont sortis avec un tout feu tout flamme, donc un Gewürztraminer de macération de terroir, quoi. Donc là j'étais un peu ébahi, mais ça arrive et c'est beau.
Alors j'aime bien l'étiquette aussi, le côté cerf-volant, printemps, les oiseaux qui chantent.
C'est kitsch, hein.
Ah bah non.
Ah mais c'est reconnaissable.
Oui, mais c'est kitsch. Mais on sait que c'est ta patte. Après, moi, enfin le côté un peu dessiné, ça me, ouais, moi j'aime bien. Moi j'aime beaucoup.
Ah mais il y a une patte et c'est ça qui est intéressant. On le reconnaît bien, quoi.
Ça fait un peu la chanson de Coclo, viens, il y a le printemps qui chante avec les notes de musique.
Les oiseaux s'envolent.
Et puis les cœurs pour la Saint-Valentin.
Et les poissons. Ça, c'est pas
non, c'est un très beau vin, c'est ce qu'on aime bien boire aussi. Et ça permet aussi, voilà, vous voyez, le fait d'avoir un domaine qui fait encore les deux, ça permet donc de favoriser aussi la découverte, la curiosité. Soyez curieux, messieurs, dames, la vie est trop courte. Soyons curieux.
Et justement, t'as mis le doigt sur quelque chose. Donc ça, c'est ma vision du vin, c'est ça. C'est le fruit, le croquant, vraiment des choses où t'as l'impression de boire du jus de fruit. Parce qu'à la base, ce que je dis à beaucoup de gens, c'est que le vin, c'est du jus de fruit, quoi. On met sur différentes... Dans différentes régions, on essaye d'expliquer que le vin, c'est quelque chose de super mystique, mystérieux. On ne sait pas trop comment c'est fait, d'où ça vient. Mais en fait, moi, j'explique à tous les gens, c'est du jus de fruit qui a fermenté, et puis c'est tout, quoi.
Ouais, c'est ça.
Il faut simplifier les choses et expliquer que c'est un produit du terroir, c'est un produit d'agriculture, et ce n'est pas quelque chose qu'on doit mettre sur un écrin incroyable.
Après, moi, ce qui m'a plu chez toi, c'est un peu comme ça que j'ai découvert ta pâte, hein, c'est « Prends-moi sec hein. ». Alors, ouais. Je précise, ce n'est pas une invitation à la débauche, hein, je vous rassure. C'est tout simplement son pet nat qui s'appelle « Prends-moi sec ». Alors, c'est quoi? C'est une position, pas du Kama Sutra, mais en escalade, c'est ça? Prends-moi sec.
Alors, pas totalement. Pas totalement. Clairement pas du Kama Sutra. Non,
c'est le Kama Sutra alsacien.
C'est quelque chose qu'on utilise quand même très souvent. Alors, généralement, on dit juste sec, mais ouais. C'est quand on est en mauvaise posture et qu'on a un peu peur de tomber. Normalement, il faudrait pas, parce qu'il faudrait juste essayer jusqu'au bout et tomber si on tombe. Mais quand on a un peu peur et qu'on est encordé, on dit « prends-moi sec ». Donc c'est pour sécher la corde et tendre la corde pour arrêter la chute. Mais bon, voilà, ceux qui ont l'esprit mal placé, ils verront autre chose. Mais c'est
forcément.
Pas du tout...
ouais, c'est... Mais par contre, c'est vrai que l'audace que tu as eue, c'est que tu ne l'as pas filtré. Et donc, il est vraiment vivant quand tu goûtes ça. Et ça, par contre, c'est le genre de pétanque, je ne suis pas persuadé que ça plaise à tout le monde.
Ah non.
Peut-être dans un verre noir ou avec un masque pour complètement déstabiliser les gens.
Ouais.
Mais c'est vrai que ça, en plus, c'est très acide et tout le monde n'aime pas forcément l'acidité. Mais même si ça reste gourmand, moi, j'aime beaucoup. Et, mais tu as eu beaucoup de retours de gens qui n'avaient pas l'habitude, qui ont goûté ça.
Alors, il y a deux choses, parce que chez nous, comme des gens suivent d'autres qui aiment des vins plutôt classiques, c'est aussi des gens qui aiment, enfin, qui connaissent pas forcément en fait le vin, qui suivent juste, et donc souvent des gens comme ça, je leur fais goûter et ils aiment. Parce que c'est des vins qui, en fait, comme ça ressemble beaucoup à un jus de fruits, en fait, il n'y a pas une barrière à l'entrée. Alors que souvent, des vins qui sont un peu trop sulfités, c'est là où il y a une grosse barrière à l'entrée. C'est là où les gens se disent, les gens qui me disent « Ah, j'aime que le vin sucré », en fait, c'est pas qu'ils aiment le vin avec du sucre. C'est juste qu'ils aiment pas le goût du soufre, mais qu'ils savent pas mettre un nom dessus. C'est pas le vin sec qu'ils n'aiment pas, c'est le vin, c'est la dureté que le soufre donne à l'acidité.
C'est ça.
J'ai fait un nombre incalculable de fois l'expérience. Je leur offre un muscat, 0 g de sucre, et même macéré, en nature. Et c'est des vins que ces gens-là apprécient, alors qu'ils avaient l'habitude de boire que du vin sucré. Et ça, je trouve ça hyper intéressant avec ces gammes-là et le travail qu'on fait ici en faisant venir des gens qui ne sont pas forcément déjà acquis à la cause.
Mais ça, c'est ce qui est bien. Et je crois que pour le deuxième vin, on va passer sur le Kirchberg, c'est ça ?
C'est
on
ça.
Va monter dans les hauteurs de bar, près de la maison, la petite maisonnette. C'est quoi d'ailleurs la petite maisonnette ?
La Mairiehiesel.
C'est un quoi ?
La Mairiehiesel.
La Mairiehiesel.
Donc la petite maison de la mairie.
Vous foutez le maire dedans quand il ne fait pas un truc bien ou...
C'est vrai. On pourrait, ouais. C'est une maison en fait qui a été érigée au milieu du 19e siècle.
Okay.
Pour la fille d'un maire de bar, qui lui a fait construire cette petite maison là-haut. Alors, il n'y a ni eau courante, ni électricité.
Okay.
Par contre, elle a été refaite par une des descendantes de cette dame. Et c'est super intéressant. Je crois qu'elle organise des portes ouvertes. Et clairement, si vous êtes intéressé, elle est incollable sur le sujet. C'est vraiment une passion, quoi.
Ça peut être drôle.
Ouais.
Alors, le Kirchberg aussi, parce que l'année dernière, le Kirchberg est passé sur les pinots noirs, a été reconnu. Donc, vos pinots noirs, ça y est, c'est...
Ça y est, on va tripler le prix, là, c'est bon.
Là, on va les acheter à 450 € comme d'autres.
C'est ça, bah, hey, on...
Après tout, c'est
faut de l'ambition,
noirs,
hein.
Cru, hein.
Faut de l'ambition, c'est clair. Donc là, oui, on a enfin eu gain de cause sur un dossier, alors qu'on avait en commun avec le Hengst et le Forbourg. Donc depuis le Kirchberg, ça faisait 9 ans. Ça faisait 9 ans qu'on avait préparé ce dossier. Et ça faisait au moins 3 ans qu'on attendait, en gros, une signature, quoi. Et donc, honnêtement, quand la décision est enfin arrivée, c'était un peu une surprise pour tout le monde. Et moi, j'ai vraiment dû regarder le document en longueur et vraiment en détail pour me dire que oui, effectivement, c'était bien réel. Et que le contenu de l'email était véridique, quoi, parce qu'on aurait pu penser à une blague après autant de temps. Et donc on a bien...
Parce qu'on est le premier cru, pareil.
Ouais, on a bien fêté ça, et là on est content.
Très bien. Mais c'est vrai que moi j'ai goûté un pinot noir, je sais plus, c'était en Cantalou, je crois que c'était pas un truc avec des chiffres romains.
C'est ça, XXC, donc ouais. petit clin d'œil, c'est un rébus en chiffres romains qui veut dire Vincent, parce que XXC ça n'existe pas en chiffres romains, quoi.
Ouais.
Voilà, c'est...
Tu as
ça c'est l'art de mon père et ça fait depuis 2003 quand même
que
cette cuvée existe.
J'ai adoré ça, j'ai trouvé ça d'une gourmandise mais incroyable et donc celui-là c'est le grand cru, hein.
Ça y est, donc en 2022.
D'accord.
Et en 2022, donc 2021 c'était déjà la première, le premier millésime en amphore.
Ouais. Ouh, amphore.
Jusque là on le faisait en barrique.
Ouais.
Parce que c'est vrai qu'à l'époque, pour montrer, surtout dans le dossier, que les Pinot Noir d'Alsace tenait la route. C'est sûr que dans les années 2000, il valait mieux faire une vinification de type bourguignonne qu'une vinification en amphore super fine sur le fruit. Je pense que les gens n'auraient pas trop compris.
Mais tu mets juste le Pinot Noir en amphore ou tu utilises... T'as quoi ? T'as des amphores dans le sol, des amphores en grès, des...
Ces amphores en grès hors sol, ouais.
Okay.
Donc là, aujourd'hui, donc on va goûter aussi un vin après. J'ai le Pinot Noir Grand Cru.
Ok.
Le Riesling Mühlforst macéré,
ouais.
Donc que j'appelle Icarus,
mm-hmm.
Que j'ai fait depuis l'année dernière aussi,
mm-hmm.
et le Riesling Chenambourg.
Okay. Ah oui,
aussi parce que c'est une bonne quantité. Ça...
Je suis toujours surpris quand j'entends, je suis à bar, Chenambourg, on l'attend. Mais je commence à connaître un peu mes petits grands crus, pas tous, hein, le Florimont. Ouais. On n'est toujours pas. Bah, je pense que ça va devenir un...
Pas de condescendance.
Le Florimont. Bon, allez, on va goûter ce Kirchberg, donc, qui est l'un des 51 grands crus. Et je crois qu'il y a trois Kirchberg. Non, c'est trois Altenberg, il y a deux Kirchberg.
Deux Kirchberg. Kirchberg de Ribeauvillé aussi.
C'est vrai. Alors, la bouteille vient d'être ouverte. Donc, si vous ouvrez un vin nature qui a un peu de perlant, ce n'est pas très grave. Vous le carafez, vous faites tourner la... Ça, c'est juste le signe que le vin est naturel. C'est le signe qui prouve qu'il est naturel. Donc, s'il est un peu perlant, moi, ça ne me dérange plus, mais je peux comprendre que ça vous dérange. Vous le tournez dans le verre ou alors vous carafez la bouteille. Ou alors, vous faites comme... Mais ça, c'était dans les temps anciens, avant le Covid. Vous prenez la bouteille, vous lâchez là. Et puis bon, parfois ça part dans tous les sens quand vous avez un Wuppertal de chez Lissner, c'est la moitié de la bouteille avec chum, tu m'as libre. Ou alors par exemple quand tu ouvres un Petnat été, t'as un truc qui part et heureusement que les gens peuvent se déshabiller rapidement.
Ah ouais, ça faut faire attention. Mais carafé, c'est pas décanté. Carafé, faut retourner la bouteille et que ça fasse le plus de mousse possible de dans
chum,
la carafe. Hein.
Chum. Alors donc du coup j'ai mis le nez dessus et la bouche aussi forcément et je trouve que voilà c'est ce que j'aime chez les grands crus. On sent quand même qu'un grand cru ça reste un grand cru même si on fait toujours des chichis en disant oui on devrait pas classer même des étiquettes. Mais je suis désolé, le terroir d'un grand cru, ça reste le terroir d'un grand cru. Et on pourra me dire ce qu'on veut, même si j'estime qu'il y a des terroirs comme le Schifferberg et d'autres qui mériteraient d'être un grand cru aussi. Mais là, franchement, on sent qu'il y a quand même... là, c'est Mbappé, quoi. On a quand même un niveau qui est largement au-dessus, quoi.
Ouais, t'as raison. Alors, je reviens juste sur les bulles. Moi, j'ai horreur des vins qui ont vraiment rien du tout. J'ai l'impression qu'ils sont morts, quoi. Donc, c'est vraiment le marqueur du vivant et le marqueur que ce vin a eu une vie riche.
Bien sûr.
Et qu'il vit encore.
Ben là, de toute façon, tes vins sont vivants. Enfin, c'est ce qu'on aime bien boire et c'est aussi le fait qu'il soit vivant. Vous mettez un vin orange au frigo en été, vous le laissez sur la table pour voir comment il évolue, même un pinot noir si vous voulez le rafraîchir un petit peu, mais s'il vous plaît arrêtez de mettre des pinots noirs froids comme à l'ancienne. Il n'y a plus de défaut dans les pinots noirs alsaciens, vous n'avez plus besoin d'avoir de maquillage, ça ne sert plus à rien, vous n'avez plus besoin d'hibernatuser les pinots noirs. Pour en revenir à ce Kirchberg, on est sur encore une fois, et j'ai l'impression que c'est un peu ta marque de fabrique, c'est peut-être le fait que tu fasses de l'escalade, j'en sais rien, mais on file droit hein, toujours. Voilà, il y a il a le costard, il est droit dans ses bottes, ouais, il est charmeur, hein, il va tout droit, hein, il cherche
peu,
pas.
Et peu d'alcool.
Et peu d'alcool, on est sur combien là?
On est sur, je crois, même pas 13.
Même pas 13 ?
13, là j'ai mis 13, je crois.
On a nouveau les papillons, ça c'est bien. Ouais, 13, mais après c'est en 2020. 2022, t'as plus de... plus d'alcool. Alors comment se passe d'ailleurs, on va faire une aparté sur 2022, compliqué?
Bah écoute, aux dernières nouvelles, pour avoir fait quelques analyses de volatiles, ça va.
Ça va.
Ça va, finalement, bon là, on a analysé notamment les macérations. Ça, ouais. Ces macérations se sont super bien passées. Donc ça fait la deuxième année là, que je fais du Pinot Gris Grand Cru en macération. C'est vraiment le top. Ouais. Enfin, moi, je suis hyper convaincu de ça. Gewürztraminer, Kirschberg aussi en macération. Enfin, je trouve que tout a vraiment très bien fonctionné. Voilà, c'est vraiment un millésime où on pouvait pas laisser les choses se faire. Clairement 50% de la cave a très bien réagi et je n'ai rien fait. Mais il fallait être derrière et il y a quelques petites choses qui ont pu être évitées avec le micro minimum de soufre.
Quoi tu estimes avoir progressé en 4 ans? Là, ça va être ton 4e millésime, qui va, enfin 2023, c'est ton 4e. Sur quoi tu as l'impression que tu as évolué en tant que vigneron? Je parle pas humainement, mais en tant que vigneron, où tu te dis, tiens, là-dessus, tiens, j'ai progressé.
C'est justement la prise de décision rapide. Surtout cette année, parce que là, vraiment, comme j'ai dit, j'étais seul aux manettes et parfois ça se faisait à 23h, les décisions. Il fallait le faire absolument parce que les choses se passaient tellement vite qu'il n'y avait pas, on ne pouvait pas trop se poser de questions. Je suis de plus en plus à l'aise pour prendre ses décisions et choisir quoi faire à tel ou tel moment, suivant les choses que je vois et les choses que je goûte ou que j'analyse. Et je vois aussi de plus en plus ce que je veux faire, là où je veux aller. Je suis de toute façon de plus en plus à l'aise avec ce genre de choses.
Donc les deux premiers, on était sur un Kirschberg et on était sur le...
Riesling Rutschler.
Le Rutschler, donc le Godet. Et là, on est sur la dernière création de l'artiste Adrien. J'ai failli dire Actarus, mais Actarus, c'est autre chose. Icarus, tu aimes bien le monde romain ou...
C'était plutôt un clin d'œil à la couleur, parce que bon, c'est... J'ai juste réfléchi parce que c'est pas facile forcément de trouver un nom adéquat, mais vu que c'est du Riesling macéré en amphore, donc j'avais le côté gréco-romain avec l'amphore, et j'ai réfléchi avec la couleur du Riesling macéré qui est plutôt assez jaune. Ça me rappelait Icar qui s'est brûlé les ailes en volant trop près du soleil. Je trouvais ça... sympa.
Moi, je trouve le clin d'œil. Et d'ailleurs, c'est marrant hein, parce que avant que tu dises Icar soleil, je me faisais la réflexion. Je trouve ce vin très solaire en fait. L'amphore ramène une petite pointe d'oxydation, mais aussi un peu de gras qui fait de ce vin en fait. Il y a une gourmandise mais on s'attend à quelque chose de pour lourd, parce que tu te dis déjà sur l'aspect, bon, tu vois qu'il y a de la couleur, quoi. Hein, mais non, en fait, c'est encore une fois, c'est paf, c'est la pâte escalade, en fait. Tu vas droit devant, mais je pense que c'est peut-être ta marque de fabrique, hein, finalement. C'est le côté on va droit devant, on se pose pas de questions et on fait, quoi. Ça marche, c'est cool, ça marche pas, au moins on a réussi, quoi. J'appelle ça des vins d'optimiste, en fait.
C'est sympa parce que je suis pas forcément super toujours optimiste, mais j'essaye.
Non, moi je trouve ça magnifique. Ça, c'est un très 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 beau vin. Ça, c'est waouh. Autant je suis pas le premier à défendre le Gewürztraminer, mais quand il est fait comme ça,
Riesling.
Riesling, j'ai dit Gewürz, ouais. Oui, pourquoi je suis parti sur Gewürztraminer, moi? Je sais pas.
C'est pas grave.
Donc, je suis pas le premier à défendre le Riesling. Si, le Riesling. En fait, moi, je défends beaucoup plus le Sylvaner que le Riesling, c'est vrai.
Ah ouais?
Je suis un amoureux du Sylvaner.
Parce que c'est le petit canard boiteux, c'est ça?
Bah, je trouve qu'il a... Ouais, c'est un peu... C'est un peu le petit cépage qu'on regarde pas trop, qui est un peu au fond de la classe, et mais qui je trouve même s'il a des lunettes parfois, mais il a un peu de charme quoi, et je trouve qu'il a une âme qui le Riesling, bon, il est un peu partout, c'est un peu le frimeur quoi. De toute façon, il est en Australie, mais le Sylvaner, il est vraiment chez nous quoi.
Ouais, et puis c'est une fierté aussi de l'Alsace hein. Ouais. Ça revient en force quand même avec cette ouais. Justement, tout cet aspect populaire du régionalisme, ouais, et ouais. Du retour aux sources, c'est quand même un cépage longtemps boudé, longtemps arraché.
Bon, parce que les Sylvanaires n'étaient pas bons, on ne peut pas non plus se raconter
ouais,
des histoires.
Ouais, mais c'est là où il y a un problème, c'est qu'on se disait c'était le problème du Sylvanaire, mais on ne s'est jamais posé la question que c'était peut-être le problème de la vinification, quoi.
C'était ça.
Bon. Et malheureusement, bon. Maintenant, c'est trop tard. Parce que
non, parce que finalement, reste, on a fait des erreurs. Ah ouais. Mais aujourd'hui, de ce qu'on boit dans cette mouvance bio, biodynamie, nature, c'est extraordinaire. Quoi.
Ah ouais, c'est top. Mais maintenant, c'est devenu une rareté.
Ouais.
Dans les années 70, je crois qu'on était à 35% d'encépagement en Sylvaner, ouais. Ce qui était, voilà, c'était ouais. Vraiment un cépage majoritaire. On est tombé à 7%. Ouais. Et on s'en mord les doigts. Je dis que c'est trop tard pour ça, parce que pour retourner au 35%, bon, c'est peut-être pas nécessaire, mais pour retourner à peut-être 15 ou 20%, ça va mettre 15 ans.
Et
quoi.
Dieu sait que c'est pour moi, c'est un très très beau cévage.
Ah oui, c'est sûr.
Mais voilà, même si je le trouve parfois un peu frimeur, le Riesling, celui-là, il a de la personnalité, et je trouve que sa personnalité prouve encore une fois que tu te places de plus en plus. Voilà, après c'est sûr que entre ton premier millésime, alors j'ai envie de dire c'est peut-être ton premier vrai millésime, parce que
ah oui.
C'est
oui.
T'étais tout seul à la barre et que voilà, c'est, je pense que t'as pas forcément dû passer les meilleures nuits du monde quoi.
Non.
Non. Connaissant un petit peu quoi, voyant un petit peu, mais c'est ça. Et puis bon, après c'est se challenger. J'ai envie de te dire, quand tu montes une falaise, tu poses pas trop de questions quoi. Donc mais un petit peu quand même, mais bon, t'as la sécurité. Là c'est vrai que t'as peut-être moins de sécurité que.
C'est plus aléatoire. Disons
ouais,
que ouais. Là, quand on grimpe, on est avec du minéral. Bon, ouais. Il peut y avoir une prise qui casse quoi, mais. Ouais. Avec du biologique et du végétal, bon, c'est plus aléatoire, et c'est ça qui rend la chose aussi belle,
ouais.
Parce qu'il y a beaucoup plus de variabilité, et on est parfois surpris, parfois un peu déçu, mais c'est ça qui rend les choses intéressantes.
Mais en tout cas, Icarus est un très très beau vin, il raconte plein de choses, et c'est vraiment... La pâte, Adrien, on la sent là. Voilà, c'est bien. Allez, place au dernier vin de la sélection, Monsieur Stoeffler.
En plus, tu crois pas si bien dire la pâte, Adrien, parce que ça a été pigé à la main dans des bottiches et c'était mes mains. Donc,
c'était tes mains, ouais, c'était tes mains.
Donc, c'est vraiment ma pâte.
Ah, parce que t'es aussi un des vignerons qui a besoin d'être plus. Ça t'emmerde de faire l'administratif, c'est ça, comme beaucoup ?
Ouais, ouais. Il faut le faire parce que
on n'a pas
le
choix.
Parce qu'il n'y a pas trop le choix, quoi. Mais c'est sûr que le problème, c'est que j'aime bien être dehors, mais quand je suis dehors, je me dis, oula, j'ai ça à faire encore.
Mais t'es où à Strasbourg ?
Alors, ben, au Cantalou.
Oui.
Ça, c'est pas mal. Mais voilà, surtout un des partenaires qu'on a depuis très très longtemps. C'est quand même le Pont Corbeau,
ouais.
qui ont une très belle sélection, très très belle sélection.
J'ai mangé dernièrement, il y a quelques jours, et je suis toujours épaté des prix qu'ils pratiquent sur les vins.
Ah ouais, non, c'est...
Ils abusent pas du tout, ces prix cavistes. Honnêtement, c'est très accessible.
Ouais, et c'est vraiment des passionnés. C'est vraiment des gens avec qui on a plaisir de travailler, de collaborer, parce que. C'est toujours intéressant quand on a la même vision que quelqu'un et on se comprend, donc c'est vraiment super. J'étais ravin.
Mais toi, tu aimerais bien être plus présent en Alsace, c'est ça ?
Oh ben, on est beaucoup
région.
Présent en Alsace, ouais. Beaucoup.
Okay. Ouais.
Mais on peut toujours faire plus.
Bien sûr.
On peut toujours faire plus. Hein, toujours. De toute façon, ce serait le top hein, de rester le plus local possible. Après. On peut pas écouler 100%, mais voilà, moi ça me fait pas plus rêver que ça d'avoir mon vin à l'autre bout du monde. Anecdotiquement, ça me fait plaisir, mais c'est pas du tout.
Écologiquement,
mon
c'est
but.
Pas ce qu'il y a de mieux.
C'est... C'est pas du tout mon but. Donc, le but, c'est de rapatrier tout ça.
Il faut redonner envie. C'est pas si compliqué que ça. Quatrième vin, bon, bah, forcément, on est. Alors, souvent, on me dit oui, t'en enregistres pas assez de ce vin-là.
On se rend compte de plus en plus avec les vins de terroir et surtout en nature. Qu'en fait, c'est un vin qui peut être super salin, super concentré, et notamment sur celui-là, en macération. Ce qui, je trouve, amène... Il y a toujours ce côté un peu d'amertume sur les gewürztraminers, oui. Mais je trouve que il y a encore une amertume différente quand on le macère.
C'est ça.
Et ça rend...
Un bel équilibre.
Voilà, ça rend l'équilibre plus harmonieux et je trouve que l'amertume est délivrée de façon aussi plus harmonieuse et plus équilibrée dans le vin. Mmh. Alors que si on ne macère pas, il manque un peu quelque chose. Et donc de base, c'est même pas un vin qu'on vend dans la liste des vins de macération parce que pour nous c'est un peu logique que ce soit macéré. Mmh. Donc celui-là et le muscat, c'est toujours macéré, point.
Mais j'adore la couleur. C'est une macération de combien de temps?
Alors, je pense que c'était 7-8 jours, mais il y avait une grosse particularité en 2021, c'est que donc on a une capacité limitée de macération au domaine. Et donc en 2021, il faut que tu imagines que sous le porche de l'entrée, il y avait à peu près 35 bottiges d'alignées. Ah oui. Alors pas pour toutes les vendanges, mais au maximum, on avait peut-être 30 bottiges. Et puis voilà, là c'était vraiment à la pâte. Hein. Et comme c'était une macération qui s'est faite à froid, au final, on obtient un vin qui est jaune, qui ne prend pas forcément la couleur des gewürztraminers roses. Donc c'est un peu déroutant parce qu'on se dit c'est un vin de macération, mais en fait, il reste assez jaune. Et ça extrait des arômes assez... Ça donne beaucoup de gras, je trouve, ces macérations à froid.
Je trouve qu'il y a, il y a du gras, il y a de... mais il y a un bel équilibre sur... ouais.
Et c'est des macérations aussi, parce que je les ai laissées que 8 jours, c'est des macérations qu'on a pressées assez tôt au final dans le processus de fermentation. Et donc, il y a extrait des polyphénols et des choses des pots avec peu d'alcool. Et donc, ça rend le vin duveteux et assez gras par rapport à... si on l'avait laissé plus, on aurait extrait des tanins et des choses comme ça. Et le fait d'avoir fait ça en bottige un peu de façon artisanale, hein, dehors, ça exacerbe l'effet millésime. Parce que ça a fermenté par 10 degrés, je pense, la nuit.
Ouais. Mais je trouve qu'il y a un très bel équilibre. La macération n'est pas trop poussée, l'amertume du coup non plus. On a plutôt quelque chose qui est gourmand, qui amène le plateau de fromage là. Là, ça sent le fromage de chèvre, petit roquefort aussi, et qui pour une fois autant moi ça m'agace le roquefort avec du sucre, avec des vins sucrés. Là, je trouve que un beau roquefort là-dessus, c'est ou une forme d'ambert, ce serait assez magique. On va passer à la dernière partie avec des petites questions volées. Comme ça me vient, je vais te poser quelques questions. Ouais, à la volée plutôt. C'est quoi le dernier vin que tu as bu d'un vigneron alsacien où tu as dit waouh, j'aimerais bien réussir à faire ça. J'aurais bien aimé le faire plutôt.
Alors, dernièrement, je crois que c'était un auxerrois de chez Frick, de 2000.
Ouais.
Et c'est quelque chose qui... Alors, c'est depuis que je fais ça, depuis ces 3 ans, c'est vrai que c'est souvent des vins de chez Frick qui m'ont fait prendre conscience de certaines choses, et notamment le Riesling macéré, parce que c'est par un vin à lui que j'ai eu envie de faire ça, parce que j'ai trouvé un potentiel incroyable, et en fait sous-exploité sur le Riesling. Et là, c'est pareil parce qu'on utilise de l'auxerrois pour faire dans notre base de crémant. Mais là, vraiment, donc cet auxerrois 2000 qui était à 13,5 ou même 14 d'alcool, mais avec une fraîcheur qui clairement était détendue, mais complexe. Voilà, ça m'a vraiment ouvert l'esprit en fait sur ce cépage, mmh. Qui est aussi peut-être aujourd'hui sous-exploité, mais pour avoir déjà vu certaines cuvées, j'ai l'impression que quand même c'est assez porteur. Donc ça donne envie de tester ça. Et d'ailleurs, j'ai fait des essais de Pétnat auxerrois là cette année, mais bon, 2-3 bouteilles. Quoi. Et bah, à cause de cette bouteille-là.
Mais c'est très bien. Voilà. C'est très bien. Je t'invite à écouter le podcast qu'on a fait ensemble, qui est très très constructif, 5 épisodes. J'avais 2h30 devant moi, j'ai qu'est-ce que je coupe ? Je coupe rien, j'en fais 5 épisodes et je suis très content de d'être libre. Si tu devais être un vigneron en Alsace, tu voudrais être qui ? Mon fric, tu l'as déjà utilisé, donc il va falloir que tu changes.
j'ai un peu ma cantine à bar,
ouais.
qui s'appelle le potin.
Okay.
C'est pas une pub, hein, mais quand même.
Tu peux, t'as le droit.
Et il a toujours des vins de chez Christophe Lindenlaub.
Ouais.
Et il y a vraiment quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est Agrifa Serré, donc je crois que c'est du Riesling.
Ouais.
Et honnêtement, j'ai goûté encore deux ou trois autres vins de Christophe,
ouais.
Mais voilà, j'aimerais bien aller vers là.
Ouais,
je trouve que vraiment,
dans sa folie,
dans son style...
Dans sa folie, c'est faire des vins. Et ouais. Moi, j'aime beaucoup ce monsieur et il le sait. C'est peut-être l'une des personnes que je respecte le plus. Toujours là, toujours disponible, jamais fait la gueule. Toujours une blague à la con.
Ouais, c'est une personne aussi entière. Enfin, ouais. Ça va vraiment...
Ouais. C'est Monsieur Lindenlaub, c'est quelqu'un de bien. Et ouais, je suis assez content que tu te... Pas que tu t'identifies, mais que ce soit une des personnes ressources que tu as.
Ouais.
Je trouve ça très bien. Et
je connais plus ses vins que lui. On a déjà discuté une ou deux fois, mais c'est vrai que...
Ouais, bah après, t'es pas loin, hein. T'as le train aussi en plus. T'es sur la même ligne. Hein. De toute façon, je t'invite d'y aller en train et de revenir en train. Connaissant le personnage, c'est mieux.
Ouais.
Tu te rappelles la première chose que t'as dit ton père quand il a goûté tes vins ?
Peut-être que pour lui, c'est un peu déroutant.
Ouais.
Parce que c'est pas exactement le style qu'il recherche.
Ouais.
C'est pas vraiment une phrase, mais il adhère,
mmh.
il adhère au truc.
Mmh.
En gros, il me dit bon ben si toi t'es convaincu, vas-y quoi.
Mmh.
Alors lui était toujours, je trouve la grosse différence et ce que j'essaye de changer, c'est peut-être aller sur des vins plus en finesse, plus un peu moins haut en alcool, quelque chose justement de plus sur le fruit, mais peut-être un peu plus de légèreté. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a cette ouverture d'esprit pour se dire, si toi, t'es sûr de toi, vas-y, quoi.
Si tu devais prendre une qualité de ton père ou une chose qui t'a appris, c'est quoi qui t'a appris le plus ?
Ouais, le partage et la patience dans le partage.
Mmh.
Vraiment la passion de la transmission des connaissances.
Tu dirais quoi au mec qui travaille dans la finance à Londres aujourd'hui ?
Si j'en voyais un, j'ai encore des relations.
Non, mais si tu... non, l'Adrien qui travaillait
en finance.
Tu lui dirais quoi aujourd'hui, à cet Adrien-là ?
Continue, tu verras qu'à la fin, il y a quelque chose de bien et te fais pas trop de soucis. Fais ce que tu as à faire pour l'instant et tu trouveras ta voie.
T'as déjà regretté ton choix ou pas du tout ?
Non.
Pas une seule seconde.
Non.
J'aurais pu donner la réponse moi-même, ça se voit dans ses yeux. Comme toujours, la dernière question que je pose à tout le monde, je voudrais, parce que ça s'appelle du raisin et des papilles, même si on est sportif on aime bien manger aussi, il ne faut pas non plus se raconter d'histoire. J'aime bien la charcuterie, il ne faut pas se raconter d'histoire, il y a des protéines dedans. Donc, je voudrais que tu me fasses pour toi ce qui est le meilleur gueuleton, le meilleur repas. Je veux savoir qu'est-ce qu'on mange, où on mange et qu'est-ce qu'on boit. Le vin, c'est du partage, la table, c'est du partage. C'est quoi pour toi le plus gros gueuleton, ce qui te fait plaisir, ce que tu as mangé, avec qui, et surtout qu'est-ce qu'on boit?
Qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, je vais pas tomber dans le cliché, mais quand même une belle choucroute.
Bah, t'as le droit de rentrer dans le cliché, on est alsaciens.
C'est pas mal, mais pour plaire à tout le monde. Ouais. pour essayer de plaire à tout le monde, ouais, non, mais je peux. C'est une des légumes au four, tu vois, mais avec de l'huile, beaucoup d'ail, ouais. Tu vois, une belle poêlée où tu ça, j'en fais souvent et je trouve c'est super parce que tu fais un gros plat, légumes, patates, avec des herbes, de beaucoup d'ail, et tu fous ça au four et quand tu le sors, eh ben, tu peux le partager avec tout le monde. Ça met tout le monde d'accord. Et là, bah, tu sers ça avec n'importe quel vin de macération. Et tu peux allier ça avec plein de choses.
Tu manges ça avec qui?
Et je mange ça avec tous les vignerons que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant pour échanger sur différentes choses et pour essayer d'avancer sur nos... Ouais, nos pratiques et essayer d'aller vers le meilleur vin du monde, quoi. et ouais, c'est intéressant. Mais bon, si je pouvais faire venir François Damien, ce serait pas mal.
Il y en a un autre qui rêverait d'avoir Patrick Bruel, hein. Qu'est-ce que je te dis?
Franchement, si tu faisais venir François Damien à une réunion comme ça, avec sa barbe du sketch, ouais, sur le pinard...
Ouais. Il y en a d'autres qui auraient aimé avoir Brel, Brassens et Léo Ferré. Bon, voilà. Mais moi, de Funès et Bourvil, j'adorerais leur présenter autre chose que du Meursault. J'aime bien Meursault, mais quand même, je suis chauvin. En tout cas, moi, on arrive vers la fin de cet épisode-là. Comme toujours, c'est ce que je défends. Alors, dans les prochaines semaines, vous pourrez bientôt aller, si vous êtes de passage à Strasbourg, je vous invite à participer au secret de l'Argentoratum, un jeu un petit peu différent parce que je vous invite à découvrir tous les secrets, l'histoire liée entre le vin d'Alsace et Strasbourg, et l'histoire est juste incroyable et j'ai découvert des choses incroyables que je pense que, allez, j'ai envie de dire 90% des vignerons ne connaissent même pas, et surtout même pas dans le vignoble de Strasbourg, et je trouve ça incroyable. On va continuer, il y en aura moins, c'est vrai, mais je vais vous présenter d'autres portraits de cuisiniers, là j'ai demandé à mes petits bouchers de participer au podcast parce que je les trouve juste géniaux et qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font, et il y aura notamment celui qui était dans la finance, et ce serait bien d'avoir une rencontre entre Stoeffler de la finance et mon petit boucher qui était dans la finance. Ce serait assez drôle, je trouve, ce serait assez cocasse. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment.
Bah écoute, c'était plutôt sympa, ouais.
T'es plutôt à l'aise.
Ouais. Alors, c'est toujours intéressant de parler de vin, hein. C'est quand même un sujet hyper dense et varié. Et toujours,
on parlait souvent, avant on disait, oui, il n'y a pas de caméra, mais j'aurais aimé qu'il y ait une caméra juste sur ton regard, parce que t'as les yeux qui pétillent quand tu parles de vin, quand tu parles de ce que tu aimes, et peut-être les miens aussi. Au final, on aime ce qu'on aime et on se bat pour ce qu'on aime, et je crois que c'est ça le plus important, parce que finalement le vin, c'est quoi? C'est du partage, c'est les amis, c'est la convivialité. On se connaissait pas beaucoup, mais on a passé un bon moment, et je trouve ça assez incroyable. En tout cas, je te remercie pour ton invitation.
Merci à toi.
Buvons modérément, buvons libre et buvons Alsace.
Hop, skilt.
Skilt. Ciao, ciao.
Salut.
N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.